Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Vortas.
107 FM.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt sur Radio Vortas 107 FM. Aujourd'hui, on fait une émission un peu spéciale, on part en Corse. Alors, pourquoi la Corse? Parce qu'on continue sur l'envie de vous faire voyager. Il y a quelques mois, on était parti en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on veut continuer à découvrir des territoires qui sont liés à la France. Et en fait, la Corse, elle possède de nombreuses essences qu'on retrouve aussi dans les Cévennes, aussi bizarrement que ça puisse paraître. Et puis on a également avec Virginie eu des rapprochements avec le territoire corse sur notre projet de valorisation de pins maritimes et également avec l'essence, donc le chêne vert. Et puis on a eu aussi eu envie de voyager un peu pour découvrir l'île de beauté. Alors on part avec Filippa Sprecia pour découvrir les forêts, les richesses de la forêt corse et peut-être les différences et les similarités entre nos forêts. Donc bonjour Virginie.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Bonjour Léo, donc notre technicien son.
Et bonjour, bonjour.
Et on a aussi en studio Juliette, ma nouvelle collègue sur le flanc alimentaire des territoires du sud de Lozère. Donc bonjour Philippa.
Bonjour à tous.
Et bonjour Philippa. Et voilà, on vous propose alors juste avant de commencer à échanger avec toi, de faire un petit topo sur la Corse pour se resituer un peu. Alors on va partir donc à 170 km de la France continentale, à 80 km de l'Italie, 10 km de la Sardaigne. Nous sommes en pleine mer Méditerranée et on ira donc sur deux départements, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Mais nous n'irons pas au chef-lieu de la Corse, à Ajaccio, parce qu'il n'y a pas assez de forêt. Et voilà, pour mémoire. En fait, la Corse est devenue un territoire français en 1768. Aujourd'hui, depuis 2018, c'est une collectivité territoriale à statut unique, à statut particulier. Il y a environ 344 000 habitants et son surnom, bien sûr, c'est l'île de beauté et c'est les Corses eux-mêmes qui l'ont donné au 19e siècle. Voilà. Alors, Philippa, bonjour. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il ?
Alors bonjour, moi je suis technicienne forestière donc au CNPF Corse, donc c'est le Centre National de la Propriété Forestière, donc nous c'est, il y a une antenne dans chaque région. Donc moi j'interviens plus particulièrement sur le secteur de la Haute-Corse parce qu'on est réparti en plusieurs secteurs entre les techniciens. Alors moi mon métier consiste à être au service des propriétaires forestiers privés de l'île, donc à les accompagner sur la gestion de leur forêt, à réaliser des diagnostics gratuits de leurs parcelles. Je les accompagne dans la réalisation d'un document de gestion durable, donc plan simple de gestion, code de bonne pratique sylvicole. Je les dirige vers des gestionnaires et des exploitants forestiers notamment. Alors par ailleurs, mon rôle ce n'est pas que ça, c'est également de soutenir les propriétaires forestiers donc dans le regroupement afin d'optimiser la gestion de leur forêt. Je participe également à des projets de territoire, donc dans le but de développer de la gestion forestière sur des massifs ciblés ou des projets plus larges, donc souvent en interaction avec les acteurs forestiers de la région, de la zone méditerranéenne, de la France plus largement. Et par ailleurs, moi, donc au sein du CNPF Corse, je suis en charge de la communication donc au niveau régional et je rédige les avis forestiers également dans les cadres des documents d'urbanisme des communes.
Ok, et du coup ça fait longtemps que tu travailles au CRPF et comment tu es un peu arrivée à travailler sur la forêt ?
Alors moi je suis au sein du CNPF depuis 10 ans. Alors au départ je n'étais pas technicienne, je suis technicienne depuis 2016. Au départ moi j'ai commencé en tant que chargée de mission. Donc moi suite à l'obtention de mon master à l'université de Corse, j'ai postulé au CNPF Corse pour réaliser une étude sur la biodiversité à l'échelle d'un massif forestier. Donc ciblé dans une micro-région. Et ensuite j'ai enchaîné avec une étude sur la sensibilité du chêne liège face au changement climatique. Et c'est que par la suite, donc en 2016, que j'ai eu l'opportunité d'intégrer le poste de technicienne de secteur, donc sur la Haute-Corse jusqu'à aujourd'hui. Mais ma formation n'était pas purement forestière. Moi, j'ai commencé par des études de biochimie, donc j'ai une licence de biochimie. Et puis après, je me suis spécialisée donc dans l'environnement et la science de l'eau. Et c'est au cours de cette formation que moi, j'ai reçu les bases des bases forestières, on dira. Et c'est l'opportunité de postuler au CNPF en tant que chargée de mission qui m'a permis de commencer une aventure forestière pure, on dira.
Merci, ben un parcours passionnant. Et alors, en parlant de la Fourista di Corsica, quelle est sa taille à peu près? Quelle proportion elle couvre sur le territoire?
Alors la forêt corse, elle représente 550 000 hectares, donc c'est 63% de notre surface régionale qui est un peu plus de 800 000 hectares, ce qui en fait que la Corse est la région la plus boisée de France et la plus boisée des îles de Méditerranée, parce que c'est assez singulier parce qu'on a des zones très arides en Méditerranée. Ça s'explique aussi par notre topologie. La forêt privée, elle représente 85% de cette forêt corse, donc pour plus de 70 000 propriétaires. Alors c'est un chiffre qui est très sous-estimé parce que nous on a un désordre foncier avec des indivisions qui remontent des fois au 19e siècle. Ça s'explique par notre histoire et la manière dont on a transmis le patrimoine. L'ONF gère quant à lui plus de 50 000 hectares de forêt territoriale. Donc il n'y a pas de forêt domaniale en Corse, elles appartiennent, les forêts qui étaient domaniales ailleurs sont des forêts territoriales qui appartiennent à la collectivité de Corse. Et l'ONF gère également 100 000 hectares de forêts communales, donc de manière classique comme sur le continent. En termes de surface, les quatre essences les plus représentées en Corse, donc on a le chêne vert en première position. Ensuite on a le pin maritime, le chêne liège et le pin lariche. Après on a d'autres essences. Si vous voulez que j'en parle en plus en détail.
On l'abordera peut-être un peu plus tard. Et est-ce qu'il y a du coup des grands types de massifs forestiers? Parce que du coup, j'imagine qu'entre le bord de mer et les sommets des montagnes corses, il doit y avoir des typologies forestières un peu différentes.
Bah alors, c'est très hétéroclite parce qu'on va retrouver le chêne vert du littoral jusqu'à 1000 mètres d'altitude, donc partout en Corse. On va avoir... du pin maritime, donc plus en montagne, mais depuis le littoral également. Donc on va retrouver des futaies de pin maritime en peuplement pur, uniquement entre 400 et 800 mètres, mais on peut le rencontrer en mélange avec le maquis arbousier, le chêne liège, jusqu'à 1400 mètres d'altitude. On va avoir le chêne liège qui va rester sur des altitudes à plutôt maximum 600 mètres, même si on peut le retrouver de manière... très ponctuel, un peu plus haut. Et on a le pin lariche sur les hautes altitudes.
On aime beaucoup, comme tu dis, pin lariche. C'est très
joli. Oui, c'est vrai, pin lariche.
Ouais, c'est très joli. Et c'est rigolo parce que du coup, on voit bien les similarités hein, avec nos forêts. Et alors, ce qui intrigue un petit peu, c'est que du coup, vous, le pin maritime, il peut aller jusqu'à 800 mètres, alors que chez nous, oui. Voilà, il craint quand même le froid, le gel, ce qu'on dit.
Oui, c'est assez sa limite. Il arrive jusqu'à 800 mètres dans quelques endroits. Fois, il atteint même 1000 mètres, mais c'est vraiment des colons quoi, qui vont peut-être être en meilleure forme les années qui viennent. Mais pour l'instant, il monte guère au-delà de 800 mètres.
Mais c'est rigolo de voir comment les essences s'adaptent à un terroir aussi.
Est-ce que tu peux nous parler d'une action que tu as menée ou que le CRPF a menée en faveur des forêts qui t'a particulièrement marquée?
Alors moi, un projet qui m'a particulièrement marqué, donc c'était juste avant d'être technicienne, donc quand j'étais chargée de mission. Donc lors de l'année 2015, moi j'ai réalisé une étude sur la sensibilité du chêne liège face au changement climatique. Donc moi c'est une essence que j'affectionne particulièrement, pour son endémicité au bassin méditerranéen. On ne retrouve pas le chêne liège ailleurs dans le monde. Pour ses propriétés singulières aussi, parce qu'elle résiste particulièrement aux incendies. Et aussi pour la beauté de cet arbre, parce qu'il est atypique de par son écorce qui est très crevassée, il est totalement typique. Alors nous, pourquoi on a fait cette étude? Parce qu'on avait constaté des dépérissements dans certaines zones en Corse. Et on a voulu savoir si elles étaient dues au changement climatique ou s'il y avait potentiellement d'autres facteurs qui avaient mené à ce que ces dépérissements soient visibles. Alors c'est pourquoi nous, on a réalisé des relevés terrain sur plus de 100 placettes répartis sur toutes les répartitions du chêne liège en Corse, donc sur son aire de répartition large, c'est-à-dire pas que les peuplements purs, mais aussi les maquis à chêne liège, donc sur une répartition de 60 000 hectares. Donc à savoir dans l'extrême sud de la Corse, donc c'est le berceau historique de l'exploitation du liège en Corse, donc autour de Porto-Vecchio, Figari. Mais également sur le Sartenay, le Taravo, la région ajaxienne et toute la côte orientale, donc de Porto-Vecchio jusqu'à la région bastiaise. Alors nous, on a été étonnés de voir que le premier facteur du dépérissement qui était observé, ben, c'était pas le changement climatique, mais c'était les blessures qui avaient été dues à des mauvaises luettes de liège qui avaient blessé les arbres, donc le liège avait écorché la mer. Le deuxième facteur, c'était la présence d'un fort remaquisement, donc dans les peuplements de chênes liège qui ont été abandonnés avec l'exode rural et l'abandon de la sylviculture. Donc là où le chêne vert envahi, l'arbousier envahi, il n'a pas supporté la concurrence, donc c'est ça qui a fait qu'il y a eu des dépérissements. Et le facteur changement climatique, lui, il intervenait comme facteur aggravant des précédents. Donc c'est pas ce qui apparaissait en premier, mais il apparaissait très ponctuellement aussi comme un des facteurs principaux, mais c'était pas la raison première. Alors nous, cette étude nous a permis de créer des corps de vigilance, en fait, pour permettre d'évaluer l'avenir des suburées. Donc les suburées, c'est les forêts de chêne liège corse. Donc en fonction de l'évolution des températures dans le temps. Donc nous, on a, grâce au diagnostic climatique qui s'effectue grâce à un outil appelé BioClimSol, c'est un outil qui a été développé par le CNPF, par l'IDF, donc l'Institut du Développement Forestier, qui prend en compte les facteurs climatiques, les facteurs topographiques et les données du peuplement. Alors ça nous a permis de créer 4 cartes de vigilance, donc une aux températures actuelles, mais bon, de 2015, donc qui sont différentes d'actuellement, un scénario à plus 1 degré, un scénario à plus 2 degrés et un scénario à plus 4 degrés. Donc bien évidemment, cette étude, elle a désormais 8 ans, donc les températures ont malheureusement bien évolué à la hausse au cours de ces 8 ans, et ce qui nous laisse à penser que les cartes de vigilance qu'on doit utiliser aujourd'hui, c'est plutôt celle avec les scénarios plus 2 et plus 4 degrés. Donc ça nous permet d'adapter nos diagnostics auprès des propriétaires pour l'avenir et les interventions sylvicoles dans leur peuplement de chênes liège.
C'est un travail très intéressant et passionnant. Et, ouais. Et est-ce que tu peux nous dire peut-être aussi un mot sur le projet Innovilex, donc qui portait sur le chêne vert? On a été aussi partenaire de ce projet-là parce qu'il avait lieu sur PACA, Occitanie et Corse, donc. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ses apports pour la Corse?
Alors, nous, on a eu l'idée de cette étude parce qu'on avait une réflexion technique pour apporter un complément de son utilisation en bois de chauffage. Donc dans le but d'élaborer de nouveaux outils en faveur de sa valorisation en bois d'œuvre. Donc c'est pour ça qu'on a développé le projet Innovilex, donc comme tu viens de le dire, avec les CNPF méditerranéens, donc PACA Occitanie. Donc c'est un projet qui a rassemblé 6 partenaires, donc autour d'actions techniques, donc qui vise à acquérir notamment de nouvelles connaissances sur les fertilités stationnelles et sylviculture, et encore une fois dans un contexte de climat changeant. Donc on a réuni autour de nous plusieurs partenaires, donc en plus des 3 CNPF méditerranéens, donc l'IDF, qui a permis l'exploitation des données IGN pour extraire la typologie, l'INBE, qui a réalisé l'étude dendrochronologique, donc pour évaluer les fertilités stationnelles, donc les vitesses de croissance par station, la datation grâce au CERN de croissance des arbres, encore le lien entre la croissance et le climat. Le CFE-CNRS, eux, quant à eux, ils ont réalisé la synthèse des expérimentations sécheresse et éclaircie. On a fait également intervenir l'ONF de Corse, qui a contribué également à l'étude dendrochronologique, qui a mis en place des placés pilotes, effectué des recommandations sylvicoles et une étude technico-économique aussi. Et en dernier lieu, il y avait aussi l'association Forêt Méditerranéenne, donc avec laquelle on a réalisé des rencontres et des séminaires afin de communiquer sur le projet. Donc ça s'est articulé autour de 3 grands axes qui avaient plusieurs actions. Donc le premier axe, c'était tout d'abord une analyse du contexte stationnel, climatique et biologique des peuplements de chênes verts en Corse, en Occitanie, en PACA. Dans un second temps, on avait prévu l'élaboration de recommandations sylvicoles nouvelles adaptées au changement climatique pour le chêne vert. Et le dernier axe, c'était la promotion de la sylviculture qui conduisait à l'amélioration du chêne vert. Donc nous, ce qui ressort ce projet, c'est que ça ouvre de belles perspectives, parce que pour l'innovation et la valorisation de chêne vert en Corse, puisque actuellement, l'activité principale, c'est uniquement l'exploitation pour le bois de chauffage. Donc avec tout ça, avec tous ces conseils, on pourrait ainsi imaginer de développer la sylviculture pour du bois d'œuvre, de chêne vert en Corse, pourquoi pas réaliser du parc un jour.
Et on voulait du coup notamment t'interroger sur, sur le fait d'une présence ou non de ce qu'on appelle une culture forestière en Corse, parce que dans les Cévennes, on essaye de la développer, elle est assez peu présente parce qu'on a une forêt qui est relativement récente. Donc qu'en est-il en Corse ?
Alors, historiquement, la Corse, c'est une forêt qui est multifonctionnelle. La culture forestière, elle peut pas être comparable à certains territoires qu'il y a sur le continent, mais elle existe quand même depuis des siècles. Donc, c'est un territoire qui est méditerranéen, donc qui a longtemps été très rural, hein, jusqu'à une soixantaine d'années, c'était encore très rural. Les hommes, ils ont toujours façonné leurs terres, travaillé des paysages, mais dans un but de se nourrir et de contribuer à la vie de leur territoire. Donc chacun d'eux exploitait au mieux les essences forestières qu'ils possédaient, qu'ils l'entouraient. Mais par contre, on constate un point de départ vraiment sous domination génoise. La culture forestière s'est davantage développée à ce moment-là. Donc avec l'exploitation des plus belles forêts, donc qui étaient destinées à alimenter les chantiers navals. Et les autres bois étaient plutôt destinés à de l'usage domestique, pour le parquage des troupeaux aussi. Donc les Corses y pratiquent la coupe de bois, donc pour les usages du quotidien, mais ils commencent à s'insérer dans les circuits commerciaux pour la coupe de bois afin d'approvisionner Gênes en bois de chauffage. Mais ce n'est qu'entre le 16e et le 18e que les forêts commencent peu à peu à être privatisées, c'est-à-dire quand la Corse est passée française, donc comme vous le disiez tout à l'heure, à la fin du 18e. Et ce n'est que là qu'on enregistre les premières propriétés forestières de grandes familles nobles en Corse, donc qui ont été, bien évidemment, avec le temps, morcelés à des particuliers qui n'étaient pas forcément nobles. Donc le chêne vert, ça reste quand même l'essence la plus plébiscitée pour le bois de chauffage local. Donc les bûches sont même exploitées vers la Sardaigne, qui ne produit pas assez de bois de chauffage. On a également le chêne pubescent, le pin maritime, qui est également utilisé comme bois de chauffage dans certaines micro-régions en Corse. C'est le chêne vert qui a également été très longtemps exploité. Donc pour la fabrication de charbon de bois, donc il y a beaucoup de charbonnières, d'anciennes charbonnières, pour le chauffage, la sidérurgie. Cette activité, elle a à peu près cessé une soixantaine d'années avec l'exode rural, la révolution industrielle du Naman. Les anciennes charbonnières sont encore visibles, donc dans plein de forêts de chêne vert, on peut encore en voir. Et il y a certaines communes, quand elles se situent sur du communal, qui les mettent en valeur pour un aspect patrimonial. Donc on avait une grosse production de charbon de bois qui était très active. Il y avait aussi une production des dérivés de résine pour qui alimentait un commerce florissant avec des petits chantiers. Donc on utilisait les branches qui étaient le plus riches en résine, qui étaient coupées et employées comme des torches rudimentaires. Donc ces forêts résineuses, elles ont fourni de la poix depuis des temps très lointains. Et maintenant, elles ont et aussi exploité pour la réalisation de bois d'œuvre, de construction, donc des charpentes, des planchers. Et actuellement, c'est elle qui concentre l'activité principale en bois d'œuvre, donc particulièrement en forêt publique, donc un peu moindre en forêt privée. Ensuite, on avait aussi taillis de châtaigniers. Donc les taillis de châtaigniers sont concentrés dans une certaine région de la Corse, qui s'appelle la Castagniche. Donc les taillis sont exclusivement ici, même si on retrouve du châtaignier de partout en Corse, sous forme plutôt de verger. Ces taillis ont été exploités pour alimenter les usines à Tana en Haute-Corse, donc près, je dirais, de la région de la Castagniche, mais également aussi pour la réalisation de bois d'œuvre, de piquets, confection de meules, des petits objets, et mis à part les usines à Tana, tout ce qui était bois d'œuvre et confection de meubles au quotidien, ça, c'était dans toutes les maisons, dans tous les villages de Corse, là où se trouvait le châtaignier, bien évidemment. Après le liège, c'est très important également la culture du liège en Corse. Alors, c'est un produit forestier qui est secondaire, mais qui a une importance notable ici. Donc il a connu une économie florissante du début du 20e aux années 60. Donc ça a été l'âge d'or du liège en Corse, qui a disparu petit à petit, donc avec la disparition progressive des usines de transformation du liège, l'exode rural hein, aussi, encore une fois. Et aujourd'hui, son exploitation connaît un regain d'activité en Corse, donc avec des nouveaux débouchés, et avec une récolte qui estime environ 1000 tonnes par an. Et dans sa multifonctionnalité, la forêt corse aussi, elle est marquée par le sylvopastoralisme, donc qui tient une part importante dans les mémoires en Corse de tout temps. Il y a toujours en Corse des bergers, des éleveurs qui ont su tirer profit de ces forêts, qui sont occupés donc pour bien le bien-être de leurs troupeaux, mais également pour leur usage quotidien, du bois pour se chauffer, se loger, s'équiper. Voilà, on n'a pas une culture forestière propre, c'est vraiment une culture forestière multifonctionnelle, une forêt classique méditerranéenne.
Merci Philippa, merci pour ces échanges. Et du coup, on te propose une pause musicale et on t'a demandé en fait de choisir une chanson. Et on va te la laisser l'annoncer si tu veux bien.
Alors la chanson que j'ai choisie, c'est Sintine du groupe Canta au Popolo Corse, donc qui est un peu une ode à la Corse et qui est telle une sentinelle au milieu de la Méditerranée.
Eh bien, on part avec Sintine. Merci, à tout à l'heure.
Sintine, Sintine,
toujours sur Radio Barthas, 107 FM, dans l'émission Palabre en forêt, et merci Philippa pour cette belle découverte. On voulait aussi te demander si tu avais une forêt préférée, si demain je vais en Corse, laquelle il faut que je visite en priorité?
Alors moi, ce que je vous conseillerais de visiter, donc c'est une des plus emblématiques, je dirais, qui est le plus connu du grand public, donc ça va être la forêt territoriale de Vidzavone. Donc il y a la frontière entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. Donc c'est une forêt qui est célèbre pour ses pins lariges. Donc il est la plus accessible, qui permet vraiment un véritable accueil du public. Et après, moi, j'ai un penchant particulier pour celle d'Aïton, donc qui est comparable, mais dans une vallée opposée, on dira, de l'autre côté de la montagne, où moi, j'ai mes souvenirs d'enfance, mais qui est vraiment majestueuse. Après, moi, ce que je vous conseillerais aussi, c'est les forêts de chênes-lièges, parce que moi, comme je vous l'ai dit avant, j'adore ça. Je les trouve magnifiques. Ça a quand même un aspect singulier, qui est propre à la Méditerranée, et qui est aussi façonné par l'homme, hein, parce que l'homme est intervenu beaucoup dans ses suberets pour les façonner. Et là encore, comme les suberets encore, ça sont à 99% forêt privée, mais vous pouvez en trouver une qui est communale, donc au sud d'Ajaccio, dans la forêt de Cotitiavre, et qui est vraiment aménagée pour les promeneurs et pour se balader au cœur d'une belle suberée.
La commune lève le liège aussi dans sa suberée?
Non, malheureusement, la commune ne lève pas le liège pour le moment, non.
D'accord.
Il y a eu des levées de liège par le passé, là, mais récente, ça fait quelques moments qu'il n'y en a pas eu.
Ok, merci. Et voilà, cette émission donc va s'achever. Et on te propose, comme à chacun de nos invités, de nous dire un petit mot forestier, si tu souhaites en ajouter un.
Alors moi, je suis très attachée à ma terre et j'espère que les propriétaires forestiers de mon île ont conscience de la valeur de leur patrimoine, que les anciens leur ont laissé, de leur belle forêt, et qu'ils feront tout pour la faire prospérer, donc pour les générations futures, pour le bien de la Corse et de la planète de manière plus large.
Merci pour ce message d'espoir.
Merci beaucoup, Philippa.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Et si tu veux rester...
Oui.
On est encore. J'avais quelques mots
la rubrique
en lien avec la Corse.
Et, ouais. Et donc on va rejoindre d'abord Aymeric Sulmont avec sa rubrique Plantes et animaux des bois, spécial Corse.
Plantes et animaux des bois.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens. Bonjour à tous et bonjour Philippa. Et je voulais commencer par te dire que je confirme que la forêt de Vidzavone est extraordinaire puisque j'y étais ce printemps. Et outre les paysages fabuleux de pins laricio posés sur rochers, il y avait des magnifiques hêtraies. Et on en voit maintenant plus beaucoup des hêtraies de cette allure-là sur le continent. On en a quelques-unes, par exemple, sur le Mont Lozère qui valent le détour avec des hêtres tortueux énormes. Et il y en a dans la vallée de Vidzavone qu'on a inventorié, nous, puisque je me suis fait une session de gens qui s'intéressent aux mousses, de bryologues. Et on est allé dans cette vallée, on a fait des découvertes intéressantes. Et voilà, c'était un petit clin d'œil sur cette forêt. Effectivement, ça vaut le détour. Et moi, j'étais aussi subjugué aussi par la taille global de tous les arbres là-bas. Les chênes verts sont monstrueux.
Ils sont magnifiques.
Ils dépassent très souvent un mètre de diamètre. Oh. Pareil pour les chênes lièges. Et les pins laricio, évidemment, c'est assez fantastique. On imagine, parce que nous, en Cévennes, le pin laric est vu comme une espèce introduite et un petit peu... pas vu avec un bon œil. Et quand on va en Corse, il y a vraiment de quoi se réconcilier complètement avec cette essence et on peut tout à fait imaginer que les forêts de Larich qu'on a en Cévennes peuvent prendre l'allure qu'elles ont aussi en Corse. Enfin, on espère bien. J'ai vu des mélanges, pin Larich et être en Corse qui rappellent tout à fait ce que nous on observe de manière plus artificielle peut-être en Cévennes. Mais qui sont bien là et qui vont probablement perdurer, peut-être en prenant un peu d'altitude. Puisque ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en Corse, les étages de végétation sont plus élevés,
puisque plus méditerranéen que chez nous, et que le Larich est plus optimum à partir, si tu vas me confirmer, hein, Philippa, plutôt à partir de 800 mètres, enfin 700 mètres, jusqu'à plus de 1800 mètres. Hein, c'est, alors que ouais. Nous, en Cévennes, il dépasse rarement 1000 mètres d'altitude. Ça arrive de le voir jusqu'à 1000, 1100 mètres, mais pas au-delà. Et donc, faut s'attendre à ce qu'il monte, évidemment. Donc c'était un petit clin d'œil sur la forêt de Corse que j'ai adoré. J'ai plein de choses. Moi, j'ai adoré la flore, évidemment, et il y a une flore qui est très très particulière en Corse, puisqu'il y a plus de 500 espèces endémiques. Donc évidemment, par exemple, je donne un seul exemple qui est de saison. On a deux espèces de colchic en Cévennes. Vous en avez au moins trois qui sont toutes spéciales à la Corse d'ailleurs. Et on a déjà parlé dans une émission précédente du danger de la colchic, qu'elle soit endémique corse ou pas. C'est pas des plantes à ramasser ou à se tromper en ramassant de l'ail des ours, par exemple, parce que c'est extrêmement toxique, on avait déjà vu ça. Et puis je voulais faire un petit focus sur la calune. La calune, c'est quelque chose qui est absent de Corse. C'est la bruyère classique que tous les cévenols voient en ce moment fleurir à basse altitude, puisqu'elle a déjà défleuri sur les hauteurs du Mont Lozère. Elle a alimenté les abeilles cet été sur le Mont Lozère, et puis elle est complètement défleurie là-haut. Et aujourd'hui, elle est en pleine floraison, elle a bénéficié des pluies d'automne. Et c'est curieusement une plante qui est absente de Corse, mais absente en fait des régions méditerranéennes. Et ce qu'on observe aujourd'hui dans les forêts cévenoles, avec ces réchauffements climatiques, et bien c'est une disparition localisée par place de la calune, qui va faire place au ciste, qui est lui exactement abondant en Corse, avec de très nombreuses espèces en Corse. Et j'ai observé des disparitions de calune sur les vallées cévenoles, qui sont les plus soumises à l'influence méditerranéenne. Et ça donne, on voit ce qui est en train de se dérouler, et bon, c'est des choses qui risquent de disparaître. Et la calune, à contre-coup, remplace la myrtille en altitude, où on voit la myrtille disparaître au profit de la calune ou du genêt purgatif. Et on voit comme ça des changements progressif d'étage qui se font de manière assez brutale, mine de rien, puisqu'il y a des mortalités par masse, de même qu'on voit des chênes verts mourir. Mais...
J'ai juste un doute entre la ciste et la cytise.
Ah, c'est deux choses différentes.
Ouais, je ne sais plus laquelle est laquelle.
La cytise, c'est la famille des genêts.
Ouais.
Ça forme des longues grappes qui pendent. Notamment de fleurs jaunes, on en voit qui sont associées notamment au pin noir d'Autriche. Mm-hmm. Qui viennent d'Autriche, qui ont été introduites, ce qu'on appelle la cytise jaune.
Ouais.
Et oui, le ciste, c'est les plantes qui ont des fleurs qui ressemblent à des roses sauvages.
Ok, je vois.
Il y a le ciste ladanifère qui est très courant en Corse, qui a une odeur très puissante. Et on n'a pas cette ciste très odorante, nous, chez nous. Mais voilà. Ouais. C'est des petits liens. Et je trouve intéressant, en fait, de voir ce qui se passe dans des régions méditerranéennes plus marquées, que ce soit voilà, la Corse ou même l'Andalousie, et de revenir ensuite en Cévennes avec ce regard, ce recul, pour se rendre compte de ce qui peut se passer. Quoi.
Ah oui.
Et notamment, le risque incendie, on n'a pas pu l'évoquer, Philippa, mais c'est vrai que c'est un risque omniprésent en Corse. Il y avait une petite question qui me taraudait, mais c'est est-ce qu'il y a, parmi les différentes forêts corses, une forêt qui semble plus... résiliente à l'incendie, en quelques mots?
Le chêne liège, déjà par ses capacités de résistance grâce à son écorce, c'est l'essence qui va être la plus résiliente lors d'un incendie. Mais on a une forêt corse qui est particulièrement sensible à l'incendie. Donc, forêt méditerranéenne, on a des températures extrêmes et des sécheresses importantes. Mais on a bien développé donc la lutte incendie ici, donc avec des plans par massif. Donc c'est quelque chose dont on a beaucoup souffert par le passé, mais dont on est moins impacté aujourd'hui parce que les équipes au niveau régional, elles travaillent énormément là-dessus. Donc bien évidemment, tout ce qui est maquis ou les taillis ou les futaies de chêne vert qui sont très en maquisés dessous avec un important sous-bois vont être... beaucoup plus sensibles, toutes les futaies résineuses également. Donc on a un peu tous les ensembles de la forêt corse qui sont touchés parce que ce risque incendie qui augmente aussi avec le changement climatique.
Et pour rebondir sur ce que tu as présenté comme travaux là sur la Corse, tu parlais de l'influence du réchauffement climatique sur les forêts corses, mais c'est souvent un facteur aggravant et je tenais à le souligner parce que c'est une raison de plus en Cévennes et partout ailleurs de se poser les questions que la forêt d'aujourd'hui, il faut y prendre encore plus soin parce que nos erreurs d'aujourd'hui, le réchauffement climatique, il va les amplifier par des maladies qui vont arriver plus facilement ou des dessèchements. Et donc, il faut être encore plus soigneux, je dirais, avec la forêt méditerranéenne aujourd'hui, vu ce qui risque de lui arriver bientôt et ce qui lui arrive en fait en ce moment. Et puis, j'avais envie de terminer par une petite chronique parce que j'ai un souvenir extraordinaire de la Corse. Je suppose que tu es au courant que la Corse abrite une espèce de mygale qui est tout à fait singulière. Est-ce que tu l'as déjà rencontrée ?
Heureusement, non.
Alors, c'est quelque chose peut-être qui est orienté sur les naturalistes, mais en France, on a très peu d'espèces de mygales. Il y en a 300 dans le monde sur les 50 000 araignées qui existent. Et c'est pas beaucoup, mais c'est une famille importante qui fait peur, etc. Alors qu'il y en a très peu qui sont dangereuses. Et en France, il y en a quelques-unes, mais qui toutes en moyenne font le corps fait un maximum entre 1 et 2 cm, à peine plus pour celles de Corse. Et avec des pattes, évidemment, ça fait une envergure de 4-5 cm, ça paraît tout de suite effrayant, mais c'est sans danger. Et la mygale corse est très très facile à observer. Je t'invite à faire le laisser. Mmh. Il suffit de se balader sur un talus corse en dessous de 1000 mètres d'altitude en moyenne, mais moi je l'ai déjà vu plus haut. Un talus terreux, vertical. Typiquement, il y en a plein dans les bords de chemin. Et on observe très couramment des trous circulaires, comme des galeries creusées qui font entre 1 et 3 cm de diamètre. Ça, c'est les restes d'une ancienne galerie de cette mygale corse. Et si tu es attentive, tu trouveras le clapet qui ferme certaines galeries, donc qui sont celles-là occupées. Et c'est très curieux. Alors, en pleine journée, il n'y a aucun risque à soulever le clapet. On peut le faire avec un bout de bois si on a peur. Et en soulevant le clapet, c'est vraiment comme une capsule de bière qui est soyeuse. À l'intérieur, mais on ne voit rien à l'extérieur, on a l'impression que c'est des mousses qui poussent. Et quand on soulève ça, en dessous, il y a un tunnel de soie. C'est assez fantastique à éclairer, on a l'impression d'être dans un tunnel de soie qui peut faire, j'ai jamais vu la bête parce que je pense que ça fait 15 à 20 cm de long. Et la mygale se cache au fond. Mais la nuit, puisque là c'est un animal nocturne, la nuit, elle vient bloquer son opercule avec ses calicères. Et avec quelques fils de soie qui tournent autour de l'entrée de sa galerie, elle l'attend et elle capte les mouvements de bestioles qui passeraient à sa portée. Alors un doigt qui passera à sa portée, je pense que ça ferait trop lourd et elle ne viendrait pas le mordre. Mais si vous lâchez quelques blattes à l'entrée de sa galerie, elle va réagir très rapidement et la capter et l'emmener dans sa galerie. Et on voit, en fait, c'est un fonctionnement très classique de mygales qui font des terriers, qui fonctionne comme ça, une chasse à l'affût, cachée derrière sa trappe, qui ouvre brutalement la trappe, qui chope sa proie et qui rentre avec. Donc il y a ça en Corse, et j'ai pas pu l'observer, je l'ai imaginé, mais j'ai vu ces nombreux clapets, j'ai joué, j'ai montré ça à mes collègues qui étaient effrayés à voir ça. Mais c'est quelque chose d'ingénieux et qu'on peut observer aussi sur le continent, sur les îles de Porquerolles, et puis dans les Alpes-Maritimes aussi. Et donc c'est peut-être quelque chose qui va progresser puisque j'entends dire par ailleurs que ceux qui importent des oliviers d'Andalousie ramènent avec eux des mygales andalouses et qui ont à peu près le même fonctionnement de trappe. Voilà. Ça c'était la minute film d'horreur, mais il n'y a aucun risque avec ces bestioles-là. J'espère que tu en verras et tu seras attentive quand tu baladeras sur des
je des n'ai jamais observé, mais maintenant je regarderai, ouais. Je pense que j'utiliserai un bâton, par
contre. Il y en a plein, voilà, c'est hallucinant. Voilà, c'était la petite minute mygale corse.
Merci Émeric.
À bientôt.
Eh bien, merci, cette émission s'achève et donc on remercie encore le CRPF Corse et en particulier Philippa Spreccia et on va se retrouver pour une prochaine émission, on espère peut-être avec les gagnants du Silvo Trophée du Parc National des Cévennes. Au revoir Margot, au revoir Aymeric.
Au revoir tout le monde, salut.
Au revoir. Au revoir.
Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts cévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.